Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Nous sommes dans cette période de Noël, une période très chargée, une période de rencontres, d'achats, de planification, aussi de neige, on peut le dire, de froid quelquefois. Et c'est aussi une période très intense au niveau de la foi chrétienne, au niveau de la liturgie, une période qui est très, très riche et nous avons avec nous un invité. Je suis très heureuse de le recevoir, Jean Groux, rédacteur en chef de Vie Liturgie. Bienvenue, Jean Groux.
Merci.
Merci d'être là parce que vous allez nous faire découvrir justement ce cycle de Noël, ce cycle liturgique, comment les symboles, les textes bibliques, comment la liturgie, elle est formidable. À partir de Noël jusqu'à la mi-janvier, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais avant de parler de cela, Jean Groux, j'aimerais que vous parliez justement de la revue, de la publication Vie liturgique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et un peu, qui sont les artisans qui sont avec vous, vous qui êtes rédacteur en chef?
Mais Vie liturgique existe depuis bientôt 50 ans. Elle se destine aux personnes responsables de la liturgie dans les communautés chrétiennes. Donc, on propose du matériel pour planifier, organiser les célébrations dominicales, les célébrations du dimanche. Et puis, aussi, on a du matériel ben, pour les célébrations en semaine. On peut donc dire qu'on couvre l'année au complet. Et puis, on publie aussi deux fois par année des dossiers spéciaux pour les temps forts de l'année liturgique, l'Avent, le Carême, le temps pascal et le temps de Noël, bien sûr, là, qui va nous occuper aujourd'hui.
Et qui sont les artisans qui sont avec vous? Parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes rédacteur en chef, mais il y a toute une équipe des gens qui écrivent, qui réfléchissent pour offrir des outils renouvelés au niveau liturgique.
Oui, c'est ça. J'ai une équipe de collaborateurs réguliers, trentaine, je dirais. Donc, ils sont d'un peu partout au Canada francophone, donc à différents endroits. Et puis, c'est des gens que j'interpelle pour leurs compétences en matière liturgique, pour leur expérience aussi sur le terrain, en pastoral et pour la rédaction d'homilies.
Jean Groux, vous êtes rédacteur en chef, donc vous êtes un peu comme, on pourrait dire, le chef d'orchestre. Vous essayez de faire en sorte que la revue, bien sûr, produise et arrive à temps. Ça, c'est très important parce que c'est pas la veille qu'on détermine ce qu'on va offrir comme prière, comme chant, comme réflexion aux communautés chrétiennes. Donc, votre rôle, c'est vraiment un rédacteur en chef, donc une espèce de chef d'orchestre.
Oui, c'est ça. Je suis rédacteur, mais je n'écris pas tant que ça. Moi, je fais écrire les autres. En fait, je suis responsable finalement de la coordination de l'ensemble, là. Attribuer les contrats de rédaction pour toute l'année aux différents membres de l'équipe de rédaction, réviser leurs textes, mettre en forme leurs textes, les réviser. C'est ça, en gros, mes fonctions.
Oui, c'est une fonction très importante de coordination, oui.
Je peux peut-être ajouter que je suis aussi rédacteur en chef de Prions l'Église, hein, qui est encore plus connu que Vie liturgique. Hein. Je pense que parmi les auditeurs, ça doit leur dire quelque chose beaucoup plus que Vie liturgique.
En fait, il y a des connexions, il y a des liens entre Prions l'Église et Vie liturgique, puisque ce sont les textes de la vie liturgique. J'aime beaucoup le titre d'ailleurs de la revue qui a 50 ans, Vie, hein, et ça parle de la vie liturgique. Oui. Et vous êtes aussi à Prions en Église, oui, qui est bien connu là pour la majorité de nos auditeurs, auditrices, effectivement, et qui accompagne justement depuis le Concile, si je comprends bien, Vatican II. Mmh. Donc, vraiment, la prière, la réflexion et la vie liturgique des croyants de l'Église catholique particulièrement. Mais je pense peut-être que dans les gens qui font référence à vie liturgique après en Église, peut avoir peut-être aussi des croyants, des croyants de d'autres confessions religieuses, sans doute.
Oui, c'est possible.
Et puis, il y a toujours, bien sûr, dans Vie liturgique, bien sûr, il y a ses prières, ses homilies, ses commentaires pour toutes les célébrations de l'année. Donc, c'est 365 jours par année, finalement, ce que vous offrez. Mais il y a aussi un choix un peu soigné des chants aussi. Vous proposez des chants et ça, c'est tout un travail.
Oui, oui. Ça, c'est surtout dans Prions en Église qu'on publie des chants. Donc, on a une responsable pour le choix de ces chants. On assure une certaine rotation pour pas que ce soit toujours les mêmes. Mais en même temps, il y en a qu'on met régulièrement parce que, ben, c'est bien quand les communautés connaissent bien les chants, ben, c'est une bonne chose parce que ça leur permet de chanter. C'est ça le but de l'exercice en liturgie. C'est pas de se donner un spectacle, mais c'est de faire chanter l'assemblée.
Effectivement, faire chanter l'assemblée, vous le rappelez très bien, Jean Groux. Eh bien, plongeons tout de suite, justement, dans cette liturgie très riche de Noël. Et ça débute avec la fête de la Nativité du Seigneur. Et vous nous rappelez, au fond, en fait, on oublie, Jean Groux, que les premiers chrétiens, en fait, les trois premiers siècles, les communautés de croyants étaient d'abord très petites, ce sont des petites communautés. Oui. Même si on les connaît un peu particulièrement par les lettres de Paul et d'autres lettres aussi du Nouveau Testament.
Les actes des apôtres.
Et les actes des apôtres, merci, exactement. Et aussi par les premiers pères de l'Église, etc. Mais on oublie que c'était difficile de pouvoir manifester publiquement sa foi et de la célébrer. Donc, on sait très bien qu'il devait se cacher. Donc, pour célébrer, souligner, même à un moment donné, ça va changer. Et aux origines de Noël, ben c'est peut-être un des premiers signes qu'il y a un changement. Donc, on reconnaît cette foi chrétienne et ça a des conséquences pour la vie liturgique, justement, des premiers chrétiens.
Oui, c'est ça. Mais il faut se rappeler que la plus ancienne fête chrétienne, ben c'est pas Noël, hein, c'est Pâques. Hein, c'est ce qu'on a voulu célébrer, c'est l'essentiel de la foi chrétienne qui est la mort et la résurrection du Christ. La fête de Noël est apparue vers la fin du 3e siècle, au début du 4e siècle, justement dans ce contexte-là où la foi chrétienne pouvait être vécue de façon ouverte au grand jour, parce que la religion chrétienne est devenue un statut officiel au sein de l'Empire romain. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la fête de Noël est apparue et on l'a située au 25 décembre. D'abord, faut se rappeler qu'on connaît pas la date de naissance exacte de Jésus, hein. Faut le dire, là. On tenait pas de registre de baptême dans ce temps-là, bien entendu.
Effectivement.
Mais, c'est ça. Donc, on l'a situé à cette date-là. On s'entend habituellement pour dire que c'est pour supplanter la fête, ce qu'on appelait la fête du soleil invaincu, qui est une fête très populaire dans l'Empire romain.
Qui est une fête païenne.
Une fête païenne. Oui, c'est ça. Donc, en prenant de plus en plus d'importance, le christianisme a fini par permettre à la fête de la naissance de Jésus de s'imposer au moment du solstice d'hiver, alors que le temps d'ensoleillement commence à allonger dans la journée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pensé introduire la fête de la naissance de Jésus. Donc, l'Église a voulu exploiter le symbole de la lumière qui supplante les ténèbres en situant la naissance de Jésus à ce moment-là et la fête de la naissance de Jésus à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a, peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'on a la preuve, ou je ne sais pas si on a cette preuve-là, mais dans l'évangile de Luc, lorsque les ténèbres sont là, il y a les bergers qui sont dans le champ, et là, il y a une grande lumière qui arrive. Alors, il y a vraiment dans les évangiles, même dans les textes, ce symbole de la lumière qui arrive. Alors, vous m'avez indiqué, Jean Groux, que, au fond, ce qui est une des caractéristiques propres de la fête de Noël, c'est une seule fête, mais quatre messes distinctes.
Et oui. Quatre messes. C'est la seule messe dans le calendrier liturgique catholique. C'est la seule fête, qui comporte quatre messes. Il y en a d'autres qui comportent une messe de la veille. Ça, c'est assez fréquent. Je pense à Saint-Pierre et Paul, la Nativité Saint-Jean-Baptiste, la Pentecôte. Mais quatre messes pour une seule fête, c'est unique. C'est unique dans le calendrier. Et ces quatre messes-là, c'est... Il y en a une pour la veille au soir. Il y a la messe de la nuit. Ça, c'est celle qu'on connaît le plus. C'est la fameuse messe de minuit qui n'a pas toujours lieu à minuit en passant, là.
Mais qui a eu lieu à minuit.
Mais oui,
maintenant, il y a des aménagements, effectivement.
Il y a des aménagements, c'est ça. Il y en a qui sont même à 16 heures déjà la veille, là. Hein. Bon. La messe suivante, c'est la messe de l'aube. Et il y a aussi la messe du jour. Celle-là aussi est quand même assez connue, assez fréquentée, la messe du jour. Autrement dit, il y en a deux là-dessus qui sont un peu plus populaires, un peu plus fréquentées. La messe de la nuit, puis la messe du jour. Celle de la veille au soir et celle de l'aube. Personnellement, je connais pas de communauté chrétienne qui la célèbre, là, mais c'est peut-être célébré dans des monastères ou dans des communautés religieuses, par exemple.
D'accord. Une fête, quatre messes distinctes, mais des évangiles qui sont différents et qui se complètent, si je comprends bien.
Absolument. Les lectures évangéliques de ces quatre messes-là, elles tournent tout autour de la naissance de Jésus, ça va de soi. Chacune proclame à sa façon que la lumière a vaincu les ténèbres, hein, que le salut est réalisé pour tous les temps et en tous les lieux. Par exemple, la messe de la veille au soir. Pour la messe de la veille au soir, l'évangile, c'est la généalogie et l'annonce à Joseph de la naissance de Jésus. Puis ce qui est à retenir, c'est la révélation du nom de Jésus. Hein. Le Seigneur sauve. C'est le salut ici. Hein. C'est ça, c'est un des aspects importants de la fête de Noël. Hein. Le récit de la nuit, ben, vous l'avez évoqué tantôt, c'est l'annonce au berger, à une grande lumière qui apparaît. Ben, voilà, on retrouve le thème de la lumière qui fait fuir l'obscurité, hein. Et avec cette proclamation, un sauveur vous est né. Donc, on a un peu comme la messe de la veille, hein, c'est l'annonce d'un sauveur qui est apparu, qui est venu dans le monde. La messe de l'aurore, c'est le récit qui suit tout de suite celui qu'on a lu pendant la messe de la nuit, c'est la visite des bergers à l'enfant Jésus. Et ils découvrent donc ce qui leur a été annoncé, c'est en quelque sorte la concrétisation de l'annonce des anges au cours de la nuit. Puis la messe du jour, c'est un peu spécial, la lecture évangélique, elle ne provient pas des récits entourant la naissance de Jésus, mais plutôt du premier chapitre de l'Évangile de Jean, qu'on appelle le prologue de l'Évangile de Jean. Et là, à ce moment-là, c'est pas tant la naissance de Jésus à Bethléem qui est soulignée, c'est la venue au monde du Verbe incarné, de la parole de Dieu incarné en Jésus de Nazareth.
Jean Groulx, c'est fort intéressant parce que ça nous permet, au fond, de se souvenir qu'il y a une si grande richesse dans les évangiles que ça prend quatre messes pour mettre en évidence, effectivement, la fête de Noël. Alors, ça donne des indices, mais il y a aussi, bien sûr, la touche du prophète Isaïe qui est vraiment très particulière, qui est absolument sans doute parmi les textes bibliques les plus appréciés parce que c'est très positif.
Oui, bien, toutes les premières lectures des quatre messes de Noël proviennent du livre d'Isaïe, effectivement, puis elles concernent tous, elles se situent toutes dans le contexte du retour du peuple d'Israël après son exil. Israël a été en exil, a été déporté et s'est trouvé en exil dans la région de Babylone pendant une quarantaine d'années. Et le prophète Isaïe est intervenu dans ces années-là pour annoncer le retour de la communauté juive dans la terre de ses ancêtres. Donc, si on a choisi ces textes-là pour les messes où on annonce la naissance, où on célèbre la naissance de Jésus, c'est pour laisser entendre que, comme autrefois pour son peuple, que Dieu a libéré de l'exil, par la naissance de Jésus, donc, il vient Dieu, il libère des ténèbres tous ceux et celles qui croient en lui. Donc, on a vu dans la libération de la communauté juive autrefois, 6 siècles auparavant, on a vu une sorte d'annonce de la grande libération que Jésus allait apporter par sa naissance à Bethléem.
Et les deuxièmes lectures de cette fête en quatre messes distinctes nous amènent à mieux interpréter, à mieux comprendre ce mystère de la venue de Jésus.
Oui, c'est ça. Les deuxièmes lectures n'abordent pas la question de la naissance de Jésus, mais chacune récapitule en quelque sorte le rôle de Jésus dans le plan de salut de Dieu. Hein, Jésus, il y en a une qui dit par exemple, qui rappelle que Jésus c'est le sauveur, ça c'est un thème majeur, hein, je l'ai déjà mentionné là, auparavant. On parle aussi des effets de la venue du Christ dans le monde. Il y a aussi un rappel de l'histoire du salut. Et enfin, une des lectures proclame Jésus comme reflet de la gloire du Père. Donc, tout ça nous situe dans le contexte de la venue de Jésus dans le monde et de ses effets. Chacun de ces passages a été choisi pour compléter ou enrichir le message de la première lecture ou de l'Évangile.
La question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean Groulx, rédacteur en chef de la revue Vie liturgique. Et le temps passe très vite, Jean Groulx. Nous abordons justement ces liturgies très riches et allons maintenant dans ce temps de Noël, donc qui va du 25 décembre jusqu'au baptême du Seigneur. Et là, il y a encore là beaucoup de richesses dans la liturgie.
Oui, c'est ça, comme vous venez de le dire, le temps de Noël s'étend, parce que dans la mentalité populaire, là, quand on parle du temps des fêtes ou du temps de Noël, ben c'est comme, c'est entre Noël puis le jour de l'an. Hein? Puis il y a bien du monde qui disent, moi après le jour de l'an, le sapin sort, les décorations sortent, tout ça. Non, c'est correct, là, c'est, ça fait partie de nos mœurs, mais c'est ce qui est bien, comme vous venez de le mentionner, le temps de Noël, il dépasse ça, il va presque jusqu'à la mi-janvier. Alors, on va y aller avec la séquence, les fêtes importantes là, du temps de Noël. Il y a Noël comme tel, le 25 décembre. Le nom officiel de la célébration, c'est la Nativité du Seigneur. Hein? Noël, c'est le terme familier, mais le nom officiel, c'est la Nativité, donc 25 décembre. Ensuite, on a la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, qui arrive le dimanche qui suit le 25 décembre. On dit que c'est le dimanche dans l'octave de la nativité, octave étant les 8 jours qui suivent la nativité. Ensuite, on a Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est à date fixe, tout comme Noël. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est le 1er janvier. Ensuite, on a l'Épiphanie, qui est le dimanche qui suit le 1er janvier. Et finalement, le baptême du Seigneur, qui est le dimanche après l'Épiphanie. Vous me suivez toujours?
Ah, on vous suit très bien, Jean Groulx.
C'est bon.
Mais vous avez à nous dire un peu plus sur chacune de ces célébrations. Oui. Commençons avec justement l'Épiphanie, d'où ça vient. Donc on voit bien là l'image des mages, on les appelle les rois mages ou des mages.
Oui.
En fait, c'est ceux qui viennent d'Orient. Alors il y a quelque chose de très particulier qu'on souligne dans cette fête.
Oui, oui. En fait, c'est ça, comme vous venez de le dire, on dit parfois les rois mages, mais en réalité, je pense que je vous apprends rien. Dans le texte de Matthieu, de l'évangéliste Matthieu, qui raconte la visite des mages, ils sont pas appelés rois nulle part. On mentionne pas non plus qu'ils sont trois. Ça, c'est la tradition qui a voulu ça, parce que il y a trois présents qui sont, trois cadeaux qui sont apportés par les mages en question, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais on dit pas qu'ils étaient trois, hein. Bon, mais c'est pas grave. La tradition leur a même donné des noms, hein. Melchior, Balthazar, Gaspard. Même chose, ça se trouve pas dans les évangiles. C'est des traditions populaires qui se sont ajoutées. Mais c'est correct. On vit avec ça. Faut se rappeler qu'au départ, l'Épiphanie, c'est une fête de l'Église d'Orient qui célébrait la naissance de Jésus, hein, et aussi sa manifestation au monde entier. Ok, c'était plutôt ça la raison de la fête. C'est aussi le cas pour la fête aujourd'hui. Là, je vais y revenir. La fête a été fixée d'abord au 6 janvier en raison d'un calcul différent de la date de naissance de Jésus. Hein. Donc, pour l'Église d'Occident, c'était le 25 décembre, mais l'Église d'Orient l'a fixé plutôt, la naissance de Jésus, au 6 janvier. Et c'est pour ça que la fête de l'Épiphanie a été fixée au 6 janvier. Puis ça permettait aussi, faut bien dire, de remplacer deux fêtes païennes qui étaient célébrées à ce moment-là, le 6 janvier, à l'entour du solstice d'hiver. Le nom de la fête, Épiphanie, ça provient d'un mot grec qui veut dire manifestation, dévoilement. Puis il désignait au départ la visite officielle d'un roi ou d'un empereur qui se montrait en public, qui se faisait voir en public. Avec le temps, on l'a appliqué à l'apparition ou à l'intervention d'un Dieu dans le monde. Et pour l'Épiphanie, évidemment, dans le contexte chrétien, ben c'est la manifestation de Dieu dans le monde par la personne de Jésus. Hein? On l'aura compris. La date de la fête a changé à quelques reprises. Je vous fais grâce des détails. Mais retenons que depuis la réforme liturgique à la suite du Concile Vatican II, la fête n'est pas à date fixe. Ce n'est plus le 6 janvier. Dans le calendrier romain, s'entend, hein? Le calendrier orthodoxe, c'est autre chose, là. Elle est célébrée le premier dimanche après le jour de l'an. Le récit évangélique de cette messe-là, de l'épiphanie, j'ai déjà fait référence, c'est la visite des mages, hein, qui se laissent guider par une étoile, qui vont d'abord consulter des savants à Jérusalem parce qu'ils perdent leur chemin, puis finalement on les oriente vers Bethléem. Ce récit-là se trouve à annoncer en quelque sorte ce qui va survenir pour Jésus dans la suite de sa vie. Bon, par exemple, on sait que dans le récit, il y a une menace de mort. C'est Hérode qui cherche à éliminer le roi des Juifs qui vient de naître, hein, ce que les mages lui ont appris. Et ça annonce déjà ce qui va arriver avec Jésus, hein, quand les autorités politiques et religieuses vont l'amener finalement à mourir, hein. Il y a aussi les mages qui viennent de loin pour adorer l'enfant. Ben, ça annonce, hein, le Christ ressuscité qui va attirer à lui tous les peuples. Puis il y a les présents apportés par les mages, je les ai déjà mentionnés rapidement tout à l'heure. La myrrhe, ça évoque son ensevelissement parce que c'est un produit qu'on utilisait pour l'embaumement des dépouilles. L'encens, qui rappelle les offrandes qu'on présentait à une divinité, et l'or qui évoque la gloire divine de Jésus-Christ.
C'est un des très, très beaux récits de Matthieu. Oui. C'est un condensé presque de l'Évangile.
Oui, oui.
Il y a aussi une autre fête, Jean Groulx, qui est, vous m'apprenez ça, qui est la plus récente incluse dans le cycle liturgique de Noël.
Ben,
et
oui.
C'est la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
Ben oui, effectivement, c'est la fête la plus récente du cycle de Noël. Elle trouve ses racines dans une dévotion populaire dont on trouve des traces au XVIIe siècle, en Europe et ici même, au Canada. Donc, et en fait, Monseigneur de Laval était un grand promoteur de la dévotion à la Sainte Famille. Hein.
Si on ignore ça,
pense que c'est pas très très connu, je trouve ça intéressant. Donc, cette fête-là a une petite saveur locale, si j'ose dire. En fait, c'est que la dévotion au point de départ, hein, on présentait la famille de Jésus, Marie et Joseph, vivant à Nazareth. Elle était présentée comme modèle pour les familles chrétiennes. Et en fait, c'est en 1893, donc, comparé aux autres fêtes dont on vient de parler, là, qui remontent au premier siècle de l'Église, celle-là, c'est au 19e siècle, hein. Donc, en 1893, pour préserver les valeurs traditionnelles du mariage et de la famille, c'est le pape Léon XIII qui va instituer une fête officielle de la Sainte Famille, puis il va la fixer au troisième dimanche après l'Épiphanie. Là, je vais vous faire grâce à nouveau des changements de date, parce que ça, c'est encore plus compliqué. La fête a été transposée à un moment ou un autre. Bon, mais c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir de cette fête, c'est qu'en fait, là, le rattachement de cette fête au cycle de Noël est un petit peu artificiel, hein? Bon. Il s'explique, en fait, par le fait que la lecture de l'Évangile, la lecture évangélique, provient des récits de l'enfance de Jésus. Donc, il y a comme eu une attraction, hein, assez naturellement, étant donné ce récit évangélique-là dans cette messe, assez naturellement, elle s'est greffée au cycle de Noël. Mais en fait, elle s'inscrit finalement très bien dans le temps de Noël, parce que, bon, Noël, hein, on sait, c'est quand même avant tout une fête de famille. Hein. Donc, célébrer la Sainte Famille pendant le temps de Noël, ce n'est pas incongru.
Et peut-être parce que les textes nous parlent beaucoup justement de Joseph, de Marie et de Jésus dans cette période de Noël. Jean-Groulx, allons tout de suite à la fête qui est fixée le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est une fête, vous me dites, d'origine orientale aussi.
Oui, alors oui, c'était une fête, s'appelait au départ la congrégulation de la Mère de Dieu, mais avec le temps, elle a évolué et elle a été fixée au 1er janvier. Pour cette fête-là, l'Évangile, la lecture évangélique de cette fête, c'est la visite des bergers à Jésus nouveau-né, avec Marie, qui médite ces événements dans son cœur. Ça explique un peu pourquoi ce récit-là a été choisi pour cette célébration. Comme deuxième lecture, c'est intéressant. On a la plus ancienne référence à Marie dans le Nouveau Testament, et c'est en fait le seul passage où Saint Paul mentionne la mère de Jésus. Comme première lecture, on a la bénédiction d'Aaron et de ses descendants. une bénédiction qu'ils sont invités à prononcer sur les fils d'Israël. C'est très approprié pour le jour de l'an, parce que traditionnellement, hein, dans la famille, le parent, en général, c'était le père, mais maintenant, bon, ça peut être le père ou la mère qui bénit les enfants. Donc, la bénédiction d'Aaron, et c'est d'ailleurs très beau, hein. Si vous prenez le temps d'aller le relire, c'est du extrait du livre des Nombres, hein.
Quand vous dites, Jean Groulx, que Paul, c'est le plus ancien passage dans le Nouveau Testament qui évoque la mère de Jésus, faut-il se rappeler que les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Alors, c'est pour ça que à cause de cette chronologie très bien établie là, par les études bibliques. Et très rapidement, Jean Groulx, le baptême du Seigneur, donc c'est le dimanche qui suit le 6 janvier. Et ça fait comme un temps charnière, vous dites.
Oui, c'est en plein ça. C'est que le baptême de Jésus, le récit du baptême de Jésus, c'est en fait sa première apparition en public. Hein. Donc, il se manifeste au monde, en quelque sorte. Et ça, c'est un des termes forts du temps de Noël, c'est la manifestation. Hein. La manifestation du Christ, la manifestation du salut de Dieu dans le monde. Donc ça, le baptême, c'est la première manifestation de Jésus. Et c'est en même temps, ça marque en même temps le début de sa prédication. Donc, en rappelant une manifestation de Jésus, cette fête-là clôt le temps de Noël, et en inaugurant le ministère public de Jésus, elle ouvre le temps ordinaire. Donc, il y a comme un passage, cette fête-là fait un passage entre le temps de Noël et le temps ordinaire.
Jean Groulx, c'était formidable de vous entendre vraiment nous décrire l'origine et aussi le choix des textes bibliques pour justement ce cycle de Noël jusqu'au baptême de Jésus. C'est très riche. Merci beaucoup, Jean Groulx. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Vie liturgique. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.